Marie-Londe Richard au micro pour l'émission Les mots de la foi avec Elisabeth. Guy est à la technique et nous poursuivons la lecture de l'encyclique du pape François, Loué sois-tu. Nous en étions au chapitre qui s'intitulait l'écologie intégrale. Intégrale, ça veut dire que tout est lié et nous en sommes au paragraphe 140 où le pape nous rappelait qu'il ne suffit pas d'avoir quelques savants chercheurs dans un domaine, mais que, en fait, les décisions pour la vie et pour que la science soit utile à tous doivent intégrer non seulement le chercheur, mais aussi tous ceux que cette recherche impacte. Et il nous montre comment, autour de ces recherches qui devraient être toujours liées les unes aux autres, eh bien, il y a aussi à voir comment nous sommes aussi situés dans ce qu'il appelle des écosystèmes.
Cet ensemble de relations entre les différentes composantes du monde.
De l'écosystème qui intervient, par exemple, dans notre vie quotidienne. Alors, il dit, eh bien, l'écosystème capture du dioxyde du carbone, purification de l'eau, contrôle des maladies, des épidémies, formation du sol, etc. C'est-à-dire que autour d'une personne vivante, en fait, il y a l'écosystème de cette personne avec son environnement qui est constitué, lui aussi, de petits écosystèmes. Et il nous montre, et c'est au numéro 141, que nous devons tenir compte pour la qualité de notre environnement, de ces écosystèmes. Il n'y a pas que la fonction centrale, il y a aussi les autres, ce qui permettait, disait-il, une utilisation durable. Et la protection d'environnement doit faire partie, nous dit-il, du processus de développement et ne peut être considérée isolément de la croissance économique. Donc, ce n'est plus le système qui permet de dire dans cette entreprise, eh bien, nous allons externaliser le ménage ou externaliser le transport, mais au contraire, les considérer comme un tout. Et il s'agit, nous dit-il, de prendre tous les problèmes environnementaux ensemble.
Oui, avec les contextes humains, familiaux, de travail, les contextes urbains, les contextes de la relation de chaque personne avec elle-même. Et c'est ce qu'il appelle l'écologie économique.
En rappelant un des principes qu'il avait énoncé précédemment, le tout est supérieur à la partie. Donc, il faut prendre conscience du tout.
Et il va plus loin en parlant d'une sorte d'écologie politique. L'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et la qualité de vie humaine.
Ben c'est vrai, quand on prend des grandes décisions, comme faire passer un TGV qui va couper toute une région et qui va faire qu'on ne peut plus passer d'un côté et de l'autre aussi facilement. C'est vrai aussi pour les autoroutes qui partagent en partie des territoires. Mais c'est vrai aussi, plus simplement, dans l'environnement urbain, comment les lois prévoient cet environnement urbain ou cet environnement social. Et pour le pape, l'écologie sociale, institutionnelle, doit partir du niveau le plus bas, du niveau de ceux qui sont affectés principalement. Ce n'est pas simplement la loi, mais c'est aussi comment la loi est respectée. Et de ce point de vue, il est très... Alors, réaliste, cynique.
Oui, il dit, nous savons par exemple que des pays dotés d'une législation claire pour la protection des forêts continuent d'être des témoins muets de la violation fréquente de ces lois.
Donc là, on voit de façon très évidente qu'il ne suffit pas de faire une loi. Ben, peut-être que nos hommes politiques pourraient en prendre de la graine, qui sont toujours à faire des lois quand il y a des problèmes. Il faudrait peut-être voir aussi comment ces lois sont appliquées. Et puis comment les usagers perçoivent ces lois qui viennent les gêner. Bon, la loi, elle est sûrement faite pour gêner les individus qui se pensaient tout seuls sur la terre, mais comment aussi on ne tient pas compte des réalités locales. Et de ce point de vue, Le pape tient beaucoup à ce qu'on tienne compte de la culture des groupes.
Oui, alors, le titre de cette partie, c'est l'écologie culturelle. Et cette écologie qui respecte la culture de chaque ensemble humain, de chaque personne, et qui devrait être le point de départ de toute action.
Alors c'est très intéressant parce qu'il dit « La culture, ce n'est pas le sens des monuments du passé, mais c'est le sens vivant, dynamique et participatif, qui ne peut être exclu lorsqu'on pense relation de l'être humain et de l'environnement. » Donc là, il y a à la fois la préservation des richesses culturelles au sens le plus large, mais aussi l'attention aux cultures locales. Et culture locale, quand on dit à partir de sa propre culture, cela peut être dans une entreprise, la culture de l'entreprise, dans un quartier, la culture du quartier. Donc tenir compte des cellules les plus petites où se vivent les relations quotidiennes des personnes.
Oui, parce que, dit-il, comme la vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être flexible et dynamique. Et ce n'est pas des solutions purement techniques qui vont régler les choses, mais la perspective des droits des peuples et des cultures et comprendre que le développement d'un groupe social suppose un processus historique dans un contexte culturel. Et toujours cette idée qu'il faut partir de la culture, la propre culture du groupe.
Donc, un dynamisme qui amène à ce que chaque personne interviennent dans la construction de son environnement. Et il c'est au numéro 145, il évoque aussi comment la concentration d'exploitation et de dégradation de l'environnement épuise les ressources de subsistance locales, mais épuise aussi les capacités sociales. Et à cet égard, il prend des exemples aussi dans les pays où telle implantation va entraîner une disparition d'espèces animales ou végétales. Mais dit-il, ce qui est plus grave, c'est aussi l'imposition d'un style de vie qui vient d'ailleurs, hégémonique, lié à un mode de production peut-être autant nuisible que l'altération des écosystèmes.
Oui, parce que ce style de vie va conduire à la disparition de certaines cultures. Il prend l'exemple dans le paragraphe suivant des populations aborigènes, des communautés aborigènes, qui risquent d'être détruites par l'arrivée de ces techniques et de ces nouvelles formes de production.
Oui, alors songeons par exemple qu'une forêt, pour le technicien de la production qui voit la forêt, il vise les mètres cubes de bois, alors que pour les personnalités locales, c'est une forêt qui a toujours existé, qui était la forêt des ancêtres, dans laquelle il y avait des clairières, mais aussi dans laquelle on tenait compte d'arbres magnifiques, ou, qui étaient aussi un lieu de culture, un lieu de civilisation, un lieu d'échange à l'ombre de ces arbres ou autour de ces arbres. Et une agriculture qui vient substituer et mettre des plantations et aligner je ne sais trop quels arbres intéressants pour l'économie, eh bien, on ne tient plus compte des cultures, des personnes, même si c'est intéressant pour l'économie. Donc, tenir compte des cultures. Ce qui nous amène à voir aussi l'écologie de la vie quotidienne.
Oui, parce que le développement authentique repose aussi sur l'amélioration de la qualité de la vie. Et ça implique, dit le pape, d'analyser l'espace où vivent les gens, le cadre qui les entoure. Et c'est l'expression d'une identité.
Alors, il évoque aussi l'adaptation. Bien évidemment, il y a des évolutions, donc il faut bien s'adapter aux évolutions, s'adapter au milieu. Mais, nous dit-il, Quand un environnement est désordonné, chaotique ou chargé de pollution visuelle et auditive, l'excès de stimulation nous met au défi d'essayer de construire une identité intégrée et heureuse. Ce qui l'amène à voir justement l'exemple des villes.
Oui, et dans ces villes, l'exemple des quartiers dégradés ou des quartiers où les densités sont extrêmement fortes, il dit la sensation d'asphyxie produite par l'entassement dans des résidences, dans des espaces à haute densité de population, ne peut être contrebalancée que si des relations humaines conviviales sont développées, si on crée des communautés, si les limites de l'environnement sont compensées par l'impression d'être inclus dans un réseau de communion et d'appartenance.
Donc on voit qu'on est loin de la construction, même lorsqu'il s'agit de réhabilitation, où on a fait des petits immeubles où chacun est bien chez soi, bien enfermé, avec des clôtures. Alors il y a la clôture extérieure, la porte du bas de l'immeuble, et puis la porte de l'escalier, et puis la porte de chez soi. Donc quatre portes avant d'arriver chez soi, mais aussi avant d'arriver chez l'autre. Donc on voit que pour la convivialité, il y a effectivement une réflexion à mener là. Alors, on évoquait le logement, mais il y a aussi la pénurie de logements, la pénurie de lieux où on vit. Et pour les habitants des quartiers très pauvres, cet entassement est quelque chose qui est extrêmement difficile, encore que, nous dit le pape, je veux insister sur le fait que l'amour est plus fort. Des personnes sont capables de tisser des liens d'appartenance et de cohabitation. Elles transforment l'entassement en expérience communautaire où les murs du moi sont rompus et les barrières de l'égoïsme dépassées. On a là quand même quelques touches d'espérance que le pape puise dans son expérience d'Amérique latine et de quartiers difficiles. Alors il évoque aussi la corrélation entre l'espace et la conduite humaine.
Oui, parce que ceux qui conçoivent des édifices, des quartiers, des espaces publics et des villes ont besoin de diverses disciplines pour comprendre les processus et les comportements des personnes. C'est pas seulement la recherche de la beauté, mais il faut utiliser la recherche de la qualité de vie des personnes, leur adaptation à l'environnement. Il est important que les perspectives des citoyens soient prises en compte dans la planification urbaine.
Donc on retrouve toujours cette notion de subsidiarité, cette notion de tenir compte de ceux qui sont impactés par les décisions prises par les autres, et on retrouve toujours cette idée de, à partir de sa propre culture, à partir de son expérience, à partir des citoyens ensemble. Et puis, nous dit-il, il faut prendre soin des lieux publics.
Oui, il faut, par exemple, prendre soin du cadre visuel, de la signalisation urbaine. Tous ces panneaux qui précèdent les entrées dans les villes. Et peut-être qu'il y aurait moyen de mieux les organiser.
Les contrôler, en tout cas, organiser cette pollution visuelle. C'est un exemple. Et puis il évoque aussi qu'on doit considérer que les différents éléments d'un lieu forment un tout perçu par les habitants comme un cadre cohérent porteur de sens. Donc, dans l'environnement urbain comme dans l'environnement rural, il convient de préserver certains lieux où sont évitées des interventions humaines qui les modifient constamment. Il évoque la crise des logements, ce que l'on a abordé. Et puis, pour terminer sur une note positive, comme elles sont belles. Les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents et qui font de cette intégration un nouveau facteur de développement. Comme elles sont belles, les villes qui, même dans leur architecture, sont remplies d'espaces qui regroupent, mettent en relation et favorisent la rencontre de l'autre. Eh bien, ce sera le mot de la fin et, chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.